Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Moi, je suis arrivé à 10h du matin dans une maison de narco où tous les mecs étaient complètement bourrés. S'ils avaient fait la teuf toute la nuit, ils étaient coqués. Ils avaient leurs armes de poing dans les mains chargées et ils les faisaient tournoyer autour de notre tête et tout.
Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Bienvenue, welcome sur le vol à destination de Tourista. Les chefs de cabine Maximuska et Marie De Breuer, qui ne se sont évidemment pas rencontrés ivre-mort à Phuket, sont à votre entière disposition pour vous faire passer un agréable voyage. Alors attention, PNC aux portes, désarmement des toboggans, et surtout évitez les glaçons dans le jus de tomate. Bon vol.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison de Tourista. Notre invité du jour a déjà interviewé des narcotrafiquants, des tueurs à gages. Aujourd'hui, c'est lui qui passe à la casserole. Pas sûr que son gilet pare-balles puisse encaisser les tirs de notre snipeuse Marie.
Oh là là.
On est ravis de démarrer cette nouvelle saison avec Charles Villa. Mais avant qu'il nous raconte ses aventures et qu'il se présente en anglais, bonjour Marie.
Bonjour, bonjour aux touristos et aux touristas. Comment ça va?
Ça va, t'es prête à voyager Marie?
Je suis prête à voyager.
T'as le droit d'intervenir.
L'intro est mythique.
Quand tu veux, Charles, à partir de maintenant. Mais je voulais juste d'abord savoir si Marie avait des petites aventures à nous raconter.
Eh bien, j'ai eu la chance, comme la moitié des Français privilégiés, de partir en Grèce. C'est mon aventure, c'est d'avoir mangé des petits souflaki en Grèce. Voilà.
Je crois que tout le monde est allé en Grèce.
Ouais. Mais sauf que moi, j'y vais depuis que je suis petite, ok?
Ouais,
vous m'avez volé.
Toi, tu faisais ça avant que ce soit le buzz, quoi.
C'est ça. Mais en même temps, venez en Grèce, ils ont besoin d'argent pour le tourisme. Merci.
Voilà, exactement. Et moi, j'ai découvert cette année la Grèce aussi. J'étais jamais allé, c'était trop bien. Et puis, moi, j'ai arrêté l'alcool là depuis un petit moment. Et du coup, j'ai coché mon premier été sans alcool où il y avait mon anniversaire. J'ai fait un mariage, j'ai fait des vacances en Grèce.
Wow.
Et j'ai découvert une nouvelle vie. Et c'est très bien passé.
Je pense que ça mérite des petites applaudissements.
Exactement. Bravo. C'est pas facile.
Bonjour
et
Charles.
T'as repris depuis?
Non, toujours pas. J'essaie de faire un an pour voir déjà, pour commencer.
Un an,
voir.
D'accord.
J'en suis à 7 mois, c'est pas mal. Et après, je ferai les comptes à la fin. Et on sera peut-être
force
un podcast, c'est simple.
force.
Mais donc bonjour Charles, bonjour.
Bonjour messieurs dames.
Est-ce que tu es prêt à nous faire voyager aujourd'hui?
Ah ben j'espère.
Je sais pas
si j'arriverai à vous faire voyager.
Je suis pas sûr de vouloir voyager partout avec toi déjà, mais bon on va voir jusqu'où tu vas nous emmener.
Mais si, c'est hyper intéressant, tu vas voir.
Et j'en suis persuadé. Premier exercice, on te demande de te présenter en anglais parce que tu sais on essaie de retrouver un peu l'ambiance auberge de jeunesse avec plein de personnes étrangères et tout ça.
Okay.
Donc, comment tu te présentes quand tu rencontres des étrangers en voyage?
Ou des narcotrafiquants d'ailleurs.
Oui exactement.
Ou des narcos. Alors la présentation est pas la même en auberge de jeunesse, mais je sais pas, je dirais un truc genre Hi, my name is Charles Villa, I'm a war reporter working for Brut Media, French media on social medias, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat and everything. And après ça dépend en fonction du sujet, mais je vais dire en anglais ce pourquoi je suis là, en fonction de la personne que j'ai en face de moi en gros, tu vois.
Il s'adapte.
Et
bien,
est-ce que ça va ou en général
tu dis ton prénom à l'anglaise quoi, ouais. Charles. T'es pas Charles Villa.
Non. Parce qu'en fait, nos contenus sont internationalisables, c'est-à-dire que on est présent aussi aux États-Unis, au Mexique, en Inde, dans plein de pays différents. Donc la plupart de mes contenus sont traduits aussi dans des langues différentes. Donc en général, je le dis à l'anglaise puisque ça va aux États-Unis aussi, en Angleterre. Donc.
Est-ce qu'il y a déjà des gens qui t'ont reconnu à l'étranger, qui t'ont dit « Oh, Charles !»
Ouais.
You're the war reporter.
Alors la petite anecdote assez drôle, c'est il y a pas longtemps, j'ai réalisé un documentaire dans les mines de coltan au Congo. Et le documentaire a beaucoup tourné dans le pays, en République démocratique du Congo. Et j'y suis retourné quelques mois plus tard pour aller voir les gorilles. Et je suis passé par le Rwanda pour aller là-bas, parce que c'était à l'est de la République démocratique du Congo. Et au Rwanda, on m'a reconnu grâce à mon reportage sur les mines de coltan. complètement fou. Un mec
You're the guy, c'est toi.
Incroyable. Bon, on en reparlera parce que j'ai vu une partie du documentaire et j'ai quelques questions.
Une
à
partie
ce
déjà.
Ouais,
c'est
parce que j'avais pas encore l'abonnement boutique quand j'ai vu. Mais bon, bref. Il avait vu une partie sur YouTube et bref. On en parlera tout à l'heure, mais avant de te poser plein de questions sur tes aventures, je voudrais que tu nous parles de ton rapport au voyage en général, qu'est-ce qui représente dans ta vie, tout ça, un petit en quelques mots.
Alors en quelques mots, le voyage c'est vraiment c'est partie intégrante de ma vie, c'est-à-dire que j'ai pas de vie sans voyage aujourd'hui, enfin ça fait déjà quelques années, mais en gros je fais du reportage en zone de conflit, sur des crises humanitaires un peu partout dans le monde, depuis à peu près 7-8 ans, particulièrement ces 3-4 dernières années. En général je fais une quinzaine de pays par an, et donc je suis absent plusieurs mois de l'année de chez moi. Donc déjà rien que dans le cadre du travail, ça fait partie de moi, ça me définit en tant que personne, en tant que reporter. Et après le voyage en dehors du boulot, c'est très particulier pour moi parce qu'en général, je profite du peu de vacances que je prends pour partir le plus loin possible. En général, je vais à l'autre bout du monde, en gros, tu vois, genre mes dernières vacances, c'était soit Ushuaïa, soit la Nouvelle-Zélande ou l'Alaska,
vraiment,
etc.
Vraiment, il n'y a pas plus loin.
Oui, voilà, à chaque fois, je prends les bouts les plus éloignés, j'essaie d'aller dans la nature, etc. Donc, je saurais pas dire dans les bons mots qu'est-ce que c'est mon rapport au voyage, je sais juste que ça fait partie de moi et ça, aujourd'hui, vraiment, ça me définit en tant que personne, quoi. Je peux pas vivre sans me déplacer énormément. Alors, du coup, c'est vraiment pas écologique. Et je suis pas sûr que ça serve à grand chose que je fasse de la compensation carbone non plus. Mais voilà, c'est pour ça que je ne donne jamais de leçons sur l'écologie aux gens, vu que je suis pas du tout un exemple. Après, je pense que je me déplace dans la très grande majorité des cas pour de bonnes raisons.
Oui,
mais
ça a une utilité publique, ton travail, tout ça. Donc,
je laisserai les gens juger ça. Mais ouais.
Ça me fait penser à un truc. Antoine de Maximi, qui fait plein de reportages, le mec qui produit J'irai dormir chez vous, lui, sa réponse, c'est « Ah, mais moi, j'ai pas d'enfant. »
Donc,
j'ai pas d'enfant, c'est bon. C'est l'action que tu peux faire qui est le plus
d'impact sur l'environnement. Bah, j'en ai pas non plus, ouais. Donc voilà, c'est mon point commun avec Antoine de Maximi.
Bref, avant de continuer à te poser plein de questions et de peut-être arrêter les blagues, on va peut-être laisser Marie faire son petit quiz. J'espère qu'elle nous a préparé quelque chose.
C'est le retour des quiz de Marie.
Moi, je les ai écoutés, les quiz, c'est super dur.
Justement, ouais. Alors,
ça va me mettre dans le mal ou genre, putain, le mec, en fait, il connaît pas du tout.
Il avait un peu peur d'être piégé sur des questions géopolitiques, le petit chat.
Justement, très sincèrement, j'avais pas envie, moi, justement, de parler géopo. Je me suis dit, Charles Villa, est-ce qu'on ferait pas un quiz sur les villas?
Oui.
Oh, waouh.
Le jeu de mots le plus pété de France. Très bien.
Sur les villas, mais genre la maison, le type de maison.
Voilà. Donc, mais vous inquiétez pas.
Il y a un lien avec le voyage, quand même.
Tu sais que je sais déjà que dans ces questions, il y a un moment où il va falloir répondre Villa Médicis. C'est sûr et certain. Non.
Eh ben, même pas.
Ah,
est-ce que ça a un rapport réellement avec le voyage? Tu peux voyager et aller vers une villa. Hop, ça me suffit, moi, comme lien pour faire mes quiz.
La villa Schweppes.
Exactement. Bah déjà, je vais poser la première question. Est-ce que vous savez la différence entre une villa et une maison?
Alors, il y a une terrasse dans les villas?
Non.
Il
peut y avoir des maisons avec des terrasses. Hein.
Non, oui, d'accord. Mais peut-être... Oui, alors villa, c'est parce qu'il y a une côte. C'est quand il y a une côte.
Villa sur la côte. Non, peux avoir une villa au milieu de nulle part.
Putain.
J'ai absolument aucune.
Ah, c'est dans le sud?
Non.
Parce qu'il y a
l'imagination,
il peut trouver.
Attends.
Je ne lâcherai pas le morceau.
Non, vous voulez la réponse?
Oui, vas-y. La réponse.
Il n'y a pas vraiment de différence entre les maisons et les villas. Mais une villa doit répondre à tous les besoins de son propriétaire. Donc, généralement, c'est des maisons de luxe plus. Il y a piscine, il y a grands espaces verts, il y a des grandes pièces, il peut y avoir des jacuzzis, des machins. Donc, en fait, la villa, c'est juste sur le luxe.
Parfait.
Que ça se joue, quoi. Il y a une villa gigantesque au cœur d'Hollywood qui fait 6000 m² avec vue sur l'océan, sauna, jacuzzi, bar, qui est disponible sur Airbnb. C'est la villa la plus chère de l'application. À votre avis, c'est combien la nuit d'une telle... Une nuit dans une telle baraque, ça coûte combien? Genre juste une nuit en euros et je dirais à 100 euros près.
Putain, à 100 euros près.
Attends, à 100 euros près. Ouais. Donc déjà, près, elle est dure. 6000 m².
Donc je pense que c'est...
6000 m².
100 euros près. 6000 m², je sais pas, 5... à 100 euros près. Donc
bon,
ça veut
bah
dire
vas-y, lance-toi.
C'est pas, je voulais dire 150
mais,
000 euros.
Bah alors,
non,
c'est
non,
juste
c'est
le,
pas 150 000, c'est sûr et certain, c'est pas assez cher. C'est beau...
Ah bon, bah oui, mais à 100 euros près.
On n'a qu'à dire juste la personne qui est plus proche gagne.
Ah,
mais
oui,
bon.
D'accord.
Alors attends, pour la villa la plus chère, 6000 mètres carrés de la... Putain, moi j'aurais dit... Une nuit, j'aurais dit, je sais pas, ouais, 500 000 dollars.
Non, moi, je dis moins.
Ok, 500 000, t'es sûr?
Moi, je dis...
C'est beaucoup?
Moi,
c'est...
je dis 87 800 euros.
J'adore que t'aies vraiment
attends,
précisé.
Attends, ouais,
87 800 euros la nuit.
Ouais.
Eh bien, écoutez, vous vous trompez tous les deux. C'est beaucoup moins, les gars.
Ah ouais?
C'est 21 813 euros la nuit.
C'est pas très cher, ouais.
Bah, ça dépend
non, mais
le
par
budget.
Rapport, par rapport non, à il peut y avoir la taille de... De,
ouais,
la,
mais
de la maison à Hollywood. Enfin,
ouais,
en fait,
alors, tu vois,
pour moi, que... c'était un truc que très peu de gens peuvent se payer. Mm. Alors que là, en réalité, pas mal de gens d'Hollywood peuvent se le payer. Tu vois,
ouais,
là,
ouais. Mais après, c'est, oui, c'est les
Airbnb,
standards
c'est
d'Airbnb.
Pour,
je pense que les villas extrêmement chères, elles ne sont peut-être pas sur Airbnb.
Ouais,
il y a
je
encore
pense
plus
qu'elles
cher.
Sont pas sur Airbnb, en fait.
Attention, la question qui n'a quasi aucun rapport avec le voyage.
Yes.
Quel rappeur a dit « Je traîne dans des villas plus grandes que ton village ».
Oh, wow. C'est la punchline.
C'est pas celui qui dit Koba la moulaga. La
comment
moulaga, donnez-moi de la moulaga.
C'est pas Us l'enfoiré. Ce n'est pas non plus Kobalade, ce n'est pas non plus Vald, c'est Lorenzo.
Oh bah.
Lorenzo,
voilà,
okay.
Le petit Lorenzo qu'on embrasse aussi dans sa chanson Dame Dame Déo. Je suis une émission de télé-réalité sur TFX.
La villa des cœurs brisés.
Oui.
Oh putain,
oh,
la wow. Honte quand j'ai répondu.
C'est allé
ça.
Tellement vite.
J'ai honte de répondre à ça. J'ai jamais. Bon, bref, je
donc
me
pour
me
ceux qui n'ont
pas
le podcast, il y a la télé devant le lit
non,
qui est dans le salon.
Non,
et donc, du coup, ça veut dire qu'il ponce la télé pour savoir ça. T'as
bah,
même pas fini ta question.
On ne shame pas les gens qui regardent la télé-réalité.
On ne shame personne. C'est factuel.
Marie fait des Twitch pour regarder des anciennes émissions de télé-réalité, donc voilà.
Moi j'ai
pas,
un petit problème, ouais. Écoutez chacun son addiction.
Ah mais j'ai aucun problème avec ça.
Et on
je ne fais que constater que t'as été très rapide.
Ouais.
Très,
très très rapide.
On m'a forcé.
Et dernière question, je suis un film français réalisé par Robert Guédiguian, putain je sais pas prononcer son nom, je m'excuse, avec Jean-Pierre Darroussin. C'est l'histoire de trois frères et sœurs qui viennent rendre visite à leur père âgé, qui vient de faire une attaque ambiance drame familial. Je suis, quel film?
Attends, Jean-Pierre Darroussin.
Ville. J'ai pas
villa,
écouté vraiment.
Villa quelque
villa
chose.
Villa Médi.
C'est la villa.
La villa, ok.
La villa, ok. Putain de
point pour Charles quand même, qui remporte la dernière.
Oui,
bravo.
Bon. Eh ben, quel quiz encore. Merci Marie, tu nous as
de
beaucoup
rien
surpris comme à ton habitude. Bon, bah voilà, ouais, on va aller dans le dur maintenant. On y va. Comment ça s'est passé ta première fois dans... Enfin...
Ta première fois. Écoute, non, je pense que comme tout le monde, c'était pas ouf. Non, c'était pas mal en vrai. Mais...
Bien joué.
On l'embrasse.
On l'embrasse, si elle se souvient de moi. Sûrement, j'espère.
Donc, on va, en fait, ce que je voudrais savoir, c'est... bon, on va parler donc de tes voyages plutôt travail. J'aimerais bien connaître un peu certaines
ouais
coulisses de tout ça. On laissera les gens aller regarder les reportages qui sont très intéressants et parler un peu plus des coulisses. Et ensuite, parler aussi, si tu veux, de ce qui se passe quand tu voyages pas. Est-ce que tu vas aussi dans des endroits un petit peu où il y a du danger ou pas? Mais bref, comment ça t'est venu? Comment t'as commencé le journalisme et les endroits un petit peu chauds? C'est venu d'où tout ça?
En gros, moi j'ai toujours été attiré par les crises humanitaires parce que c'est souvent les sujets qu'on voit le moins dans les médias traditionnels. Oui, en tout cas, ils sont très peu couverts. Et quand je parle de crise humanitaire, je vais surtout parler de celle que j'ai pu couvrir en Afrique centrale, Afrique subsaharienne, où il y a très peu de médias, en fait, qui y vont, de manière générale. Et je sais pas, j'ai toujours été attiré par ça, par le fait d'aller dans ces endroits-là pour parler de choses qu'on ne voit pas ou peu. Alors surtout à la télé, parce que moi je prends pas trop les autres médias en référence, parce que je les consomme pas beaucoup. Moi je suis vraiment un reporter télé, j'ai toujours travaillé dans les médias qui font de l'image. Pour me mettre le pied à l'étrier, entre guillemets, parce que tu peux pas, quand t'es jeune reporter, tu peux aller dans des zones à risque, mais si t'as pas de réseau, si t'as pas de contact, ça reste quand même très compliqué. Et en fait, ma toute première mission, c'est pas du tout là-bas, c'est pas du tout en Afrique subsaharienne, au final, c'était en Palestine. Et en fait, j'ai accompagné une mission humanitaire de chirurgie réparatrice, où en gros, l'idée, c'était d'aller opérer des enfants qui avaient été victimes de bombardements de l'armée israélienne, et donc qui avaient des graves séquelles de brûlures, qui avaient besoin soit de greffes, soit de... voilà, d'opérations pour libérer des membres parce qu'il y avait des bouts de peau qui étaient collés, etc., et qu'ils étaient handicapés. Et en fait, quand j'y suis allé, au moment où j'y étais, ça a pété. En gros, il y a eu une espèce de intifada locale, notamment dans une ville cisjordanienne qui s'appelle Hébron, où en gros, une partie de la jeunesse s'est révoltée contre l'armée israélienne. Et donc, d'un côté, il y avait des adolescents, jeunes adultes qui lançaient des pierres, et de l'autre, il y avait l'armée israélienne qui répondait souvent avec des balles en caoutchouc. Et des balles en caoutchouc, ça peut faire très mal, ça peut faire des trous dans la peau, etc. Ça peut aussi tuer. Si ça arrive au mauvais endroit. Et donc, en fait, pendant cette mission humanitaire de chirurgie réparatrice, ben, on recevait des blessés à l'hôpital de l'endroit où il y avait des combats entre l'armée israélienne et ces jeunes ados. Et au final, j'étais le seul sur place à ce moment-là. Et en fait, ça a fait que conforter mon idée que c'était ça que j'avais envie de faire, puisque j'étais le seul et je pouvais en parler. J'en parlais sur les réseaux sociaux. J'en ai fait un reportage pour France 5 qui a plutôt bien marché. Et après, en fait, j'ai mis les pieds dans une boîte de prod qui aimait bien mon profil. Il n'y avait pas trop mon profil à cette époque-là, c'est-à-dire que j'étais très jeune, j'avais tout mon matos et pour moi, je pouvais aller un peu n'importe où, j'étais hyper flexible, etc. Donc, j'ai mis les pieds dans cette boîte de prod et derrière, je leur ai proposé de faire une série de documentaires sur plusieurs crises humanitaires qui se déroulaient en ce moment. Au moment où j'en parlais, je leur en parlais en Afrique et ils m'ont dit oui. Et ça a commencé comme ça. J'ai enchaîné plusieurs pays en Afrique subsaharienne. Je suis allé à la frontière gambienne avec le Sénégal pour une mission de chirurgie réparatrice sur une maladie tropicale qui s'appelle le Noma. C'est une espèce de gangrène des tissus de la bouche qui arrive souvent chez les enfants malnutris ou qui ont plein de carences et qui laisse des graves séquelles sur le visage. On peut voir les os de la mâchoire, etc. Donc, ils finissent ostracisés au sein de leur communauté, etc. Ils peuvent pas se marier, donc avoir une vie normale, etc. Donc, c'était un documentaire hyper intéressant. J'ai couvert plusieurs épidémies de choléra au Malawi, en Ouganda. J'ai fait la guerre en Centrafrique. La famine au Tchad, au Soudan du Sud. Enfin voilà. Après, je suis allé dans plein de pays différents pour raconter ce qui se passait là-bas. Et il s'avère que ça marchait plutôt bien. En tout cas, enfin les audiences étaient bonnes et ça a intéressé les gens, contrairement à ce qu'on peut entendre en général, que c'est ce qui se passe dans ces pays-là, ça intéresse pas grand monde. En fait, ça faisait pas mal d'audience et les gens avaient envie de savoir et de comprendre pourquoi il y avait la famine à cet endroit-là, pourquoi il y avait une situation de crise humanitaire dans tel pays. Donc voilà, ça a commencé comme ça. En fait, il y a un truc dont j'ai pas souvent parlé, mais en gros, moi je viens d'une famille où il y a quelques médecins, notamment mon père et mon parrain qui était un médecin humanitaire qui a fait beaucoup de médecine humanitaire en Afrique. Et c'est un métier qui m'a aussi... Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec des médecins sur le terrain parce que c'est un métier que je trouve incroyable, surtout dans ces pays-là où tu peux vraiment... faire la différence avec des petits gestes médicaux relativement assez simples ou un peu de chirurgie, tu peux vraiment changer la vie des gens. Et cette première mission, c'était avec mon parrain qui est chirurgien réparateur. Et voilà, c'était fascinant parce que lui, il avait travaillé pendant 20 ans dans toute la corne de l'Afrique, etc. Donc il connaît très bien les cultures locales, etc. Et vu qu'il connaissait beaucoup de gens sur place aussi, c'était incroyable de voir voilà ce que tu peux faire avec peu de moyens et tu peux vraiment changer la vie des gens. Donc voilà, ça aussi, ça m'a donné envie de tu vois, notamment dans les zones de conflit, de beaucoup plus m'intéresser au côté humanitaire, aux victimes civiles des conflits, plutôt que de travailler sur le terrain avec des militaires. Mmh. Et c'est pour plein de raisons. C'est que souvent, quand tu es avec des militaires, bah, tu peux pas filmer ce que tu veux, parce que tu es obligé de les suivre. Et les gens que tu vas croiser vont pas te parler de la même façon, puisque tu es entouré de militaires, de gens armés. Donc, ils peuvent avoir peur, ils peuvent dire des choses qu'ils ne pensent pas, juste parce qu'ils sont terrifiés, tu vois, à l'idée d'avoir des problèmes avec des militaires. Alors que quand tu travailles avec des médecins dans des hôpitaux, tu peux quasiment raconter tout ce qui se passe sur place dans un hôpital, parce que tu vas avoir toutes les différentes maladies, toutes les pathologies, toutes les blessures qui te racontent qui te racontent ce conflit. C'est aussi pour ça que je travaille surtout avec des humanitaires et des médecins dans ces endroits-là.
Donc quand tu pars, en fait, tu as toujours un contact avec toi au préalable? Comment ça se passe?
Quand tu fais ce métier, pour travailler dans ces pays-là, sauf cas exceptionnel, tu as besoin de quelqu'un qui parle la langue sur place, de quelqu'un qui va connaître des gens, avoir des contacts, ne serait-ce que pour avoir des autorisations de tournage, etc. Donc dans le métier, on appelle ça des fixeurs. Un fixeur, en réalité, c'est un mot qui veut dire journaliste, collègue, traducteur. Mais en gros, c'est un contact sur place
mais
qui
local,
parle la langue.
Quoi, ouais.
Souvent, c'est un journaliste local et qui va t'aider dans tes démarches. Et donc, dans quasiment la majorité des cas, je travaille avec un fixeur. Mais ça m'arrive aussi parfois de travailler qu'avec des acteurs humanitaires sur place, parce qu'au sein de leur structure, c'est-à-dire dans l'hôpital, etc., ils ont souvent soit des expatriés qui parlent anglais, français, et avec qui tu peux discuter, échanger, pour aller voir des personnes différentes, pour faire le tour de la situation. Donc voilà. Mais en général, j'ai toujours au moins un contact sur place. Je ne pars pas à l'aveuglette, sauf si c'est dans des pays... entre guillemets, très développé, ou tu vois, par exemple, quand je suis allé couvrir les manifestations à Hong Kong, j'avais pas besoin de contact sur place. J'en ai eu un, mais c'était surtout la jeunesse qui était dans la rue. La jeunesse là-bas, ils parlent tous très bien anglais. J'aurais pu atterrir à l'aéroport, aller en centre-ville et couvrir les manifestations tout de suite, ouais, sans contact, tu vois. C'est surtout, ça va surtout être dans les pays où t'as des énormes différences culturelles, une langue complètement différente. Et où là, tu peux pas te passer d'avoir quelqu'un qui va, ouais, qui va t'apprendre les codes sur place, qui va t'apprendre à interagir avec les gens, parce que ça, c'est clé aussi, tu vois, de pas avoir des comportements inappropriés au mauvais endroit, en fait. Tu vois.
Et alors, par exemple, quand t'es parti au Mexique filmer les narcotrafiquants, ouais, et tout ça, là pareil, t'as été aidé par un fixeur qui t'a permis, exactement, de rentrer dans, ouais, dans ces sphères-là et tout ça.
Bah, en gros, alors c'est hyper intéressant, les narcos, parce que les gens ont toujours beaucoup de questions autour de ça, genre savoir comment on fait pour rentrer en contact avec des narcos. Il y a même beaucoup de gens qui remettent parfois en cause, genre la véracité de ton reportage, c'est des acteurs, etc. Alors qu'en fait, je vais vous parler d'un schéma que tu pourrais aussi appliquer en France. Mais en gros, moi, mon fixeur, c'est quelqu'un qui a grandi à Culiacán, qui est le fief du cartel de Sinaloa, qui est un des cartels de drogue les plus puissants du monde et le plus puissant du Mexique. Et en fait, lui, quand il a commencé à être fixeur, il a été approché par des télé américaines qui cherchaient des points de contact dans le cartel. Il faut savoir qu'au Mexique, il y a des dizaines de milliers de personnes qui travaillent pour des cartels. Et en fait, il avait des potes de son enfance qui sont passés dans le cartel à Culiacán à une époque de leur vie, de leur âge. Alors lui, maintenant, ça fait 30 ans qu'il travaille en documentaire, en tant que fixeur sur les sujets autour du narcotrafic. Donc il a un réseau incroyable, il a beaucoup de numéros. C'est pas si dur que ça. Et en fait, si tu l'appliquais en France, par exemple, un journaliste américain qui voudrait travailler sur des problématiques en France, s'il passait par moi, je suis à 2-3 numéros de téléphone d'un dealer, d'un... Enfin, tu vois, de un peu n'importe quel sujet, en fait. Il suffit juste d'enquêter un peu. Lui, c'est ce qu'il a fait. Et en fait, quand tu grandis dans cette région, typiquement, tu connais forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va te mettre un pied dans le cartel. Ça demande malgré tout d'avoir un bon réseau, la confiance des narcos pour...
Et comment ça se passe d'ailleurs pour la confiance, ouais,
En gros, pour eux, c'est très clair. De toute façon, quand tu les approches, quand tu viens les voir, s'il y a le moindre problème à la suite du reportage, c'est-à-dire s'il y a une descente de flics ou quelque chose comme ça, ils te menacent. Ils te disent très clairement, s'il y a le moindre problème, on te retrouvera et on te mettra une balle dans la tête. Mon fixeur, il risque sa vie depuis qu'il fait ce métier-là. Et ça lui est déjà arrivé d'avoir des emmerdes avec des cartels. Donc, après, les journalistes étrangers, bon, il y a peu de chances qu'il nous arrive quelque chose. C'est surtout les journalistes locaux qui enquêtent sur les cartels qui sont en danger. Mais moi, la seule chose à laquelle il faut que je fasse attention, c'est que souvent sur mes images, il y a des scènes, il y a des moments qu'ils ne veulent pas voir dans le documentaire. Ouais. Donc, par exemple, je ne sais pas, s'ils changent de cagoule, s'il y a leur voix sans modification de voix, tu vois, par exemple, que des trucs qui pourraient potentiellement les aider à être identifiés, des tatouages, tous ces trucs-là, c'est des trucs qu'il faut masquer ou flouter.
Et comment tu fais avec les images quand tu prends l'avion, du coup, tu les mets où, tes images?
Alors, ça dépend, mais...
C'est vrai, si tu perds les images en cours de route. Non, mais si tu perds les images, en gros,
en général, par exemple, moi, je fais pas quand je travaille avec les narcos.
Peut-être c'est des questions que tu veux pas répondre aussi, t'as le droit. Hein.
Non, non, mais si je peux, après, c'est. Enfin, pff,
je les bouffe.
Je les bouffe. Non, en fait, par exemple, j'évite de faire des backups. Okay. En général, parce que les disques durs, c'est un truc que la police pourrait regarder. Même si je crois qu'il me semble que malgré tout, il leur faudrait un mandat.
Okay.
Si tu as le moindre problème, c'est-à-dire tu te fais arrêter à l'aéroport, s'ils veulent checker ton matériel, tout ça, un disque dur, c'est très facile. Tu branches un câble sur l'ordinateur et c'est réglé. Tu vois. Mm. Donc en général, je fais pas de backup, j'ai que des petites cartes SD. Et alors maintenant, je le fais plus, mais à une certaine époque, je les mettais dans la semelle de ma chaussure.
Putain.
Voilà. Juste pour les jeunes journalistes qui nous écoutent ou vidéastes, si vous n'allez pas voir des narcotrafiquants, vous faites des backups. C'est vraiment un petit conseil comme ça. Même deux, trois s'il y a besoin.
Voilà. Non, mais après, tu vois, par exemple, la semelle des chaussures, c'était un truc. En plus, tout ça, c'est hyper situationnel parce que, par exemple, tu as des pays où tu vas avoir des portiques électriques à l'entrée de l'aéroport, mais pas après. Donc, moi, ça m'est arrivé de faire passer. Et en fait, tu vas pouvoir garder ton sac à dos. Donc ça m'est arrivé de switcher des cartes ou des choses que je voulais pas que les autorités trouvent entre ma valise et mon sac à dos en fonction de où se trouvent les portiques et de comment ça se passe. Par exemple, la plupart des pays d'Afrique centrale, bon, les contrôles sont pas hyper développés. Il suffit juste quand tu arrives à l'aéroport, quand tu rentres dans le pays, que tu regardes, t'observes un peu comment ça se passe. Comme ça, quand tu dois repartir, si tu as des images sensibles, tu sais à peu près comment ça va se passer. Bon, la clé pour moi, c'est souvent est-ce que le portique est à l'entrée ou après le passage, après que tu as enregistré tes valises. Voilà. Et ça, je vais m'adapter en fonction de ça, par exemple.
Je vais checker dans tous les aéroports maintenant mais si pareil. J'avais des cartes, des petites cartes USB.
Mais non, mais parce que nous, on n'aura que des images de plage, frère, donc ça va.
Ouais, c'est vrai.
Donc, tu vois, tu peux vraiment dire, c'est moi, c'est ma cousine.
Elle a raison dans le sens où, tu vois, c'est vrai que, par exemple, moi, quand je vais voir les cartes, je viens avec un visa touriste.
En plus, ouais.
Donc, si la police a une surveillance à un moment donné sur les gangs ou le cartel que je suis censé aller voir, à aucun moment ils sont censés savoir. Ils ont un nombre de touristes phénoménal au Mexique.
Ouais, ils peuvent se dire, ah, le matos c'est peut-être un peu développé pour un touriste.
Ouais, mais du matos, en vrai, tu vois, moi je tourne avec un appareil photo.
Ouais.
Tout le monde a des appareils photo maintenant. Est-ce tous les touristes, ils ont des beaux appareils photo.
Un petit look un peu touriste, parce que généralement t'es un peu en noir, petite casquette, tu la joues un petit peu, genre avec un petit cocktail dans la main en plastique.
Petite chemise à fleurs. Il faut savoir que moi, quand je suis en vacances, je suis jamais en noir, je suis tout le temps en chemise à fleurs. Il y a très peu de choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Quoi. Enfin, on me voit vraiment comme le gars en noir avec la casquette, mais en général, je suis en chemise à fleurs, voire sans casquette aussi.
Bon.
Mais non, en général, je suis comme ça, parce que ça fait casual quand même, ma tenue dans les aéroports. C'est juste là où je suis repérable. Bon, le Mexique, je le suis pas parce qu'il y a beaucoup de blancs, etc. Mais dans tous les pays d'Afrique centrale où je vais, en général, je suis le seul blanc. Enfin, dans les aéroports où je vais ou dans les villes où je me rends, il n'y a pas de blanc. Donc là, je suis ultra identifiable et je suis soit humanitaire, soit dans la diplomatie, soit journaliste. Tu vois, pour eux, ça va très vite. Donc c'est là où je dois faire vraiment attention à comment je transporte mes rushs, où est-ce que je les planque, comment je planque mon matos s'il faut que je le planque. Enfin voilà, c'est des questions que je me pose à chaque fois.
T'as déjà dû bosser une légende ou t'as dû passer dans une autre profession.
Non, t'es dans la DGSE.
Mais oui, exactement. Non, mais c'est dans le bureau des légendes, tu sais.
Alors moi, je passe ma vie à mentir.
Et donc tu te prépares et tout, genre. Est-ce que tu peux nous en parler?
Ouais. Alors il y a 2-3 missions où je peux vous en parler, mais en gros, ça dépend de l'endroit où je vais. Dans la très grande majorité des cas, je suis identifié comme journaliste. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai des emmerdes.
Une légende, pour que peut-être c'est pas clair, c'est quand tu te fais passer pour quelqu'un d'autre, quand tu as un autre métier, une autre.
Alors, une légende, ça peut être plein de choses, mais en gros, c'est quand tu t'inventes une histoire et donc tu dois changer une partie du récit de ta vie ou ton identité ou ton identité professionnelle, etc. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une fausse identité professionnelle. Notamment, je suis allé au Yémen en 2019. C'était une infiltration parce que l'ambassade du Yémen ne délivrait aucun visa aux journalistes français. Non, le pays était en guerre, donc il n'y a pas de touristes de toute façon. Ouais. Mais il ne délivrait aucun visa aux journalistes français parce que En 2019, il y a eu beaucoup de révélations sur les ventes d'armes françaises à l'Arabie Saoudite qui utilisent du matériel français pour tuer des civils au Yémen. Donc en gros, ils ont fermé tous les circuits de visa pour la presse et j'ai réussi à pénétrer dans le pays en me faisant passer pour un humanitaire. Donc là, c'est, tu changes toute ton identité professionnelle, tu t'inventes une légende, un parcours dans l'humanitaire pour, parce que tu
avais ton passeport quand même.
J'avais mon passeport, j'avais ma vraie. Parce que tu peux pas, en vrai, tu peux pas. Il y a pas de journaliste, ou en tout cas pas que je sache, de journalistes qui font des faux passeports.
Ça serait vraiment un peu scandale.
Faut bien comprendre qu'on est dans une époque où frauder sur les papiers, ça reste assez compliqué. Voilà. Enfin, moi, j'ai pas eu d'écho dans mon entourage de gens qui utilisent des faux passeports, parce que mine de rien, dans les aéroports, c'est très compliqué. Et souvent, maintenant, tu fais pas un vol direct au pays d'Afrique centrale ou au pays du Moyen-Orient pour aller par exemple en Irak et en Syrie. Souvent tu fais un stop soit dans les Émirats, à Doha, Dubaï, Abu Dhabi ou à Istanbul, et se balader avec des faux papiers dans ces endroits là ça peut être très compliqué. Donc
et que les mecs de la DGSE pour le coup peut-être avoir des faux passeports.
Voilà, exactement. Mais en gros, voilà, moi j'avais une fausse identité professionnelle et en gros, je m'étais inventé un parcours dans le monde humanitaire que j'ai vendu à beaucoup de gens pour pouvoir travailler et sortir à quelques petits moments très précis de ma mission une caméra pour filmer ce qui se passait dans certains endroits. Et tu vois, je suis resté par exemple, j'ai fait cette infiltration pendant 10 jours et j'ai dû tourner, je sais pas, 2h30 de rush à tout casser. Ah ouais. Donc c'est très très peu. Je sortais ma caméra qu'à certains moments. Il y a beaucoup de rushs qui sont filmés au téléphone portable, mais la majorité du temps j'étais à l'arrière de ma bagnole derrière des vitres teintées à me planquer quoi. Et quand je descendais, j'étais dans ma légende, j'étais humanitaire français pour une mission très précise. Voilà. Et après je rentrerai pas dans les détails, mais ça, je me suis inventé une vie pendant 10 jours complètement. Et ça m'arrive, voilà, de mentir sur qui je suis, où est-ce que ça va être diffusé quand c'est des personnes mal intentionnées qui veulent des informations, tu vois. Ça, je le fais pour me protéger ou parce que je sais que j'ai une fenêtre de tir pour mentir et me sortir d'une situation où ça peut être compliqué, etc.
Voilà. D'ailleurs, tu as deux choses. Est-ce que tu as des cours ou des trucs de préparation quand tu vas dans certaines zones, sur peut-être des coachings, et est-ce que tu es suivi aussi? Bon, d'abord, on va peut-être répondre à ça.
Tu te prépares pas vraiment à faire ce métier en zone de conflit. Il n'y a pas vraiment de formation pour ça. Tu as plusieurs organisations en France, notamment France 24, qui va avoir une formation pour apprendre quelques règles élémentaires de sécurité quand tu travailles dans ces pays-là. Moi, j'avais fait un espèce de stage préparatoire avec des commandos de l'armée française, de l'armée de terre, pour apprendre à travailler avec les militaires français sans les mettre en danger sur le terrain, donc à faire ce qu'on appelle de l'embedded, être en immersion avec l'armée française. Donc là, c'est hyper intéressant parce que tu apprends évidemment plein de choses, parce que tu as des retours d'expérience de militaires qui étaient en zone, en théâtre de conflit, etc., comme l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire, Srebrenica, ce genre de choses. Et donc eux, ils t'expliquent qu'est-ce qui s'est passé pour eux, comment ils ont travaillé avec des journalistes, qu'est-ce qui les a mis en danger, ce genre de choses. Donc c'est hyper intéressant. Après, il y a un truc qu'il faut, je pense, impérativement faire avant de partir dans ces endroits-là, c'est faire une formation secouriste pour savoir quoi faire si tu as une plaie qui s'ouvre ou qu'un collègue a une plaie ouverte suite à, un tir de balle ou une mine, une explosion, enfin, peu importe, que tu puisses savoir faire un garrot, savoir faire des points de compression, savoir faire des massages cardiaques. Ça, pour moi, c'est obligatoire, c'était la base. Donc ça, je l'ai fait, évidemment, avant de commencer. Mais après, tout le reste, on t'apprend pas à supporter la pression de ces endroits-là, on t'apprend pas à supporter la difficulté de ce que tu vas voir. C'est soit tu peux le faire, ou en tout cas tu peux gérer ton stress, tes émotions suffisamment bien pour que tu sois pas dans un état de panique générale en permanence, et ou que tu sois pas en tension permanente qui t'empêche de bosser. Ça, on te l'apprend pas. C'est, tu vois, il faut aller sur le terrain pour voir si t'en es capable, en fait. Et je sais qu'il y a plein de gens qui s'en sentent pas capables avant d'y aller. Donc au moins, c'est clair. Et il y en a qui y vont et qui se rendent compte, je suis pas fait pour ça, en fait. Parce que, voilà, clairement, c'est pas pareil quand tu bosses dans ces zones-là. C'est pas du tout les mêmes conditions de travail. Faut clairement te dire que tu mets ta vie en danger, quoi. C'est pas un jeu, donc il faut savoir exactement où est-ce que tu pars, quoi.
Et tu dois être suivi derrière quand tu vas dans des endroits où...
C'est une vraie question, parce que tu vois, par exemple... bon, déjà, ça fait pas longtemps qu'on parle des traumas de guerre, traumas psychologiques que tu peux avoir en ayant été sur un théâtre, une zone de conflit. Même à l'armée, c'est très récent. Dans les médias, t'as quelques médias qui ont des psychologues qui font, voilà, chaque reporter qui rentre d'une zone de conflit a un débrief, ce genre de choses. Tu vois, moi, j'ai réalisé un documentaire sur le stress post-traumatique. Ça peut se déclencher des années après que t'aies fait ces théâtres d'opération. Il y a quelques signes avant-coureurs, c'est bien de les connaître, comme ça tu sais, voilà, tu les reconnais quand ils t'arrivent, et bah, dans ces cas-là, il faut foncer voir des spécialistes qui vont t'aider à gérer ce qui est en train de se passer, parce que les conséquences peuvent être très graves dans le cas du stress post-traumatique. Moi, je suis suivi par une psychologue, tu vois, mais je sais que, enfin, tu vois, j'ai eu un épisode une fois qui aurait pu être alarmant. À mon retour, j'ai réalisé un documentaire sur les charniers de Daesh, donc c'est les espèces de fosses communes dans lesquelles ils balançaient des centaines de cadavres. Et c'était un truc très dur à faire, parce que je suis descendu dans ces fosses et marché sur des cadavres, et j'ai eu un peu de mal à m'en remettre. Et j'ai eu pendant quelques semaines après le reportage des petits épisodes où il fallait être vigilant. Mais voilà, vu que j'ai de la chance de faire un métier où je parle beaucoup de ce que je fais, c'est un énorme exutoire. Souvent, le gros problème du stress post-traumatique, notamment chez les militaires, c'est que quand ils rentrent, ils savent pas à qui en parler, ils savent pas, voilà, ils retrouvent leur cocon familial qui est pas du tout habitué à parler de ce qui se passe dans ces endroits-là. C'est extrêmement difficile, ils savent pas à qui se confier.
Toi, ton métier, c'est d'en parler.
Voilà, je suis tout le temps en train de faire de la pédagogie sur ce que je fais. Et en plus de ça, je fais attention, donc, parce que je sais que ça peut être hyper violent, et peut-être que ça se déclenchera plus tard, j'en sais rien, mais en tout cas je fais attention à ça. Et pour le moment, j'ai pas eu, je souffre pas de stress post-traumatique, et j'ai un suivi, moi, personnel.
Alors des fois tu te mets vraiment en danger sur des tournages, t'as des endroits où, enfin, je me souviens justement que tu parlais tout à l'heure au Congo, tu rentres dans une mine de coltan, en fait tu descends à 40 mètres sous terre dans un petit trou, en fait, et au bout de 40 mètres, bah, tu croises deux gamins qui piochent, quoi, et où tu dis qu'à tout moment ça peut s'écrouler, machin, et donc t'es allé là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu ressens un peu de l'excitation, t'as de l'adrénaline? Est-ce que parfois tu tapes un peu d'inconscience et tu dis merde, putain, si j'avais su, est-ce que j'aurais dû faire ça? Et comment tu décides tous ces trucs-là?
Alors, il y a beaucoup de gens qui parlent d'adrénaline, notamment dans ce que je fais, parce que ouais, je vais souvent dans les zones conflits, etc. L'adrénaline, chez moi, c'est pas du tout un moteur.
Ouais.
J'en ressens pas beaucoup, sauf quand il y a des pics de stress. C'est-à-dire si t'entends, il y a un bombardement, ou t'entends des tirs de balles, etc. Mais je suis pas du tout attiré par l'adrénaline. Dans le cas de la mine, ça fait très longtemps que je voulais faire ce documentaire en République démocratique du Congo pour parler de ce qui se passe dans le Kivu, parce qu'il n'y a pas que la problématique des mines. C'est un ensemble de choses, c'est une zone de conflit qui a plus de 25 ans et où il y a eu des millions de morts à cause de la guerre, des famines, des maladies, etc. Donc dans le documentaire, je parle de plein de choses qui amènent à la problématique du pillage des ressources naturelles du pays. Et ça faisait très longtemps que je voulais y aller. J'ai galéré pour y aller, mais pendant des années. Et quand j'ai eu l'autorisation d'aller filmer dans ces mines, je savais que si j'y retournerais sûrement jamais. Parce que à mon avis, après ça, il y a peu de chances que j'ai encore des autorisations. Mais en fait, pour moi, quand j'étais sur place, j'avais pas le choix que de descendre. Si j'avais donné ma caméra à un mineur qui descend là-dedans, déjà, je me sentirais un peu mal. Parce que peut-être qu'il ferait moins attention, j'en sais rien, parce qu'il a une caméra dans les mains ou autre. Et aussi parce qu'il a l'habitude de descendre. Et donc, les émotions qu'on aurait pu voir sur son visage ou qu'il aurait pu faire ressentir aux gens qui regardaient le reportage n'auraient pas du tout été les mêmes. Et en fait, t'as un truc... je pense qu'il est lié à une forme, à de l'anthropomorphisme, de voir un blanc descendre dans cette mine, pour la première fois avec les réactions qui étaient vraiment les miennes, tu vois, complètement naturelles, j'ai eu très très peur parce que je suis très grand et que c'est vraiment un cauchemar ces mines. C'est tout petit, c'est très étroit, on étouffe, c'est extrêmement dangereux, il n'y a aucune sécurité. Tu as des images sur internet où tu vois quand une mine s'effondre, ce que ça fait à partir du trou de l'extérieur. Il n'y a personne qui peut sortir, c'est plus possible, tu vois. Donc, je sais qu'en descendant, je risquais ma vie. Après, la réalité, c'est qu'il y a des centaines de milliers de Congolais et d'Africains dans plein d'autres pays où il y a de l'extraction de minerais qui risquent leur vie tous les jours.
Ouais.
Donc, dans l'absolu, je ne fais rien d'exceptionnel. C'est juste que, pour moi, je n'avais pas le choix que de le faire pour montrer la réalité de ce que c'est aux gens et pour qu'ils se mettent à la place de ces mineurs. Parce qu'il y avait quelqu'un qui leur ressemblait un peu, qui parlait leur langue ou autre, qui le faisait. Et je pense que... Je dis pas que ça aurait été moins fort, mais je pense que ça aurait moins touché les gens ici si je l'avais pas fait. Je peux me tromper, tu vois, mais c'est ce que je me suis dit sur place. Je pense que le reportage a fait beaucoup de bruit, donc, parce qu'il a beaucoup tourné au Congo, en RDC derrière. Donc je pense que ça a eu l'effet escompté. Et aussi parce qu'ils n'ont pas l'habitude de... J'étais content de le faire aussi parce que quand je sors, il y a la réaction des mineurs qui se foutent un peu de ma gueule, etc. Et c'est très bien parce que voilà, je suis resté quoi, 25 minutes dans cette mine. Eux, ils y passent 10 heures par jour, etc. Et c'était important, tu vois, dans le doc, derrière, quand je sors, je leur dis que je suis admiratif, hein, que je trouve qu'ils ont beaucoup de courage de faire ce métier-là. Je sais qu'ils sont, pour beaucoup, ils n'ont pas le choix que de le faire. Mais j'ai voulu laisser ce moment-là pour montrer que pour eux c'est banal en fait que moi je descende, que je fasse 25 minutes dedans, c'est rien du tout pour eux, tu vois. En tout cas, ça a fait sens pour moi que de descendre, mais je l'ai pas du tout fait pour de l'adrénaline et tu vois, j'ai pas du tout envie de le refaire, donc non, je suis pas du tout drivé par l'adrénaline. C'est au contraire, j'en ai pas beaucoup moi. Dans les pics de stress en général, je suis très calme.
Et il y a pas eu des tournages, des trucs qui ont été avortés parce que par exemple le gars de la milice, enfin, qui avait complètement zinzin et tu te dis wow, est-ce que je suis en sécurité là-dedans, comment ça peut finir?
Tu l'es jamais vraiment parce que voilà, c'est des mecs hyper instables. Après, concrètement, ils ont aucun intérêt à faire du mal à un journaliste blanc qui vient les voir de loin parce que ça pourrait entraîner des enquêtes de l'ONU et tout, même si dans ces endroits-là, en général, ça aboutit pas vraiment. Mais ils ont pas d'intérêt à me faire du mal. Après, ils pourraient, si tu vois, j'avais un comportement inapproprié ou inadapté selon eux, tu vois, il aurait pu s'énerver, tu vois, quand je lui posais certaines questions.
Il s'énerve un petit peu.
Oui, il s'énerve à la fin.
Il y avait des fusils à droite à gauche.
Il a arrêté l'interview. Ouais. Mais après, pour en revenir à la problématique des chefs de groupe armé, typiquement, oui, il y a des moments où j'annule, où je dis c'est pas possible. Par exemple, ce chef de milice, c'est pas lui que je devais aller voir à la base. Je devais aller voir Guidon Chimiré, qui est un des plus grands chefs de guerre de la République démocratique du Congo. Il est très puissant. C'est le chef du NDC rénové, qui est une milice très puissante. Et en fait, au moment où je suis arrivé en RDC pour aller le voir, l'armée congolaise a lancé une offensive contre lui. Donc ça veut dire qu'il y avait énormément de tensions dans la région où je devais le rejoindre, que j'allais devoir gérer aussi l'armée congolaise, des autorisations, etc. Et qu'il était possible que si je me rendais sur place, que je me retrouve entre des tirs croisés ou des échanges de tirs, parce que l'armée est en train de lancer une attaque contre ce chef. Donc, clairement, tu vois, moi, là, à ce moment-là, avec mon fixeur, on dit, ça vaut pas le coup. Tu vois, c'est
terminé.
Trop risqué pour rien. On pourrait le faire, tu vois, mais ça vaut pas le coup.
Je t'avais demandé de préparer une petite anecdote si jamais t'avais
J'en ai préparé aucune, mais on va
non, mais voilà, donc tu peux piocher dans tes vacances touristes sans caméra, tes tournages, quelque chose qui est un petit peu exceptionnel, une anecdote
mais exceptionnelle qu'on n'a pas forcément vu dans les reportages ou dans les coulisses.
Si t'as eu la tourista quand t'es parti en voyage un jour, c'est le moment d'en parler.
Alors faut savoir que bon voilà, on va pas se mentir, moi quand je travaille en Afrique centrale, je fais hyper gaffe à ce que je mange, parce que la nourriture est délicieuse, mais on peut vite tomber malade et choper la tourista parce que on n'a pas les mêmes microbes dans l'estomac, enfin bon bref, je sais pas trop comment expliquer ça, mais si tu bouffes le mauvais truc, tu peux vite rester allongé pendant 2-3 jours. Donc, et c'est des trucs que je peux, dont, que je peux pas me permettre en fait en mission. Je peux pas rater 2-3 jours de tournage, c'est pas possible. Donc en général, déjà, il faut savoir que quand je travaille dans ces pays-là, surtout en Afrique centrale, je mange que du poulet et du riz. Je
zéro mange, risque.
Ouais, j'essaie de prendre le moins de risques possible que de l'eau en bouteille, évidemment. Et malgré ça, ça peut quand même arriver que tu chopes un truc, tu vois, au mauvais endroit, etc. Donc, par exemple, le matin où je suis allé voir le chef du groupe armé, en réalité, j'étais pas bien. J'étais un peu ballonné, ouais. Donc, c'était pas du tout agréable. Parce qu'en plus, derrière, je me suis tapé la montée de la montagne là, pendant 2 heures en plein cagnard. Et je suis arrivé en haut, je transpirais très, très fortement. Hein. Là, mais j'ai fait mon interview.
Tu peux pas demander de faire une petite pause popo, quoi.
Oh, Charles Villa.
Non, tu peux pas.
C'est en plus, moi,
alors après le gros avantage, c'est il y a un truc, je sais pas, c'est comme l'adrénaline, tu vois, ouais, ouais. Quand j'arrive en haut de la montagne, le premier truc que je vois, c'est un gamin de 14 ans avec une Kalachnikov, et en fait, j'ai complètement oublié que j'étais ballonné, tu vois. Ouais. C'est, je suis rentré direct dans le dur. J'ai, ah ouais, ok, vas-y, c'est parti.
Excusez-moi, donc, avant qu'on commence l'interview, où sont vos toilettes?
Toilettes sèches, du coup. Ouais. Donc non, ça pour la petite anecdote, et ça m'est arrivé à plein de moments, tu vois, ça arrive souvent en fait que t'es à la réalité.
Mais la tourista, ça arrive à tout.
Ouais, et puis la chiasse, t'as plein de gens qui ont la chiasse à cause du stress, à cause de plein de choses qui peuvent arriver.
Mais toi, tu l'as eu à un moment bien précis.
Ouais, assez incroyable.
Et quand tu te retrouves avec tous les narcos et tout, est-ce que c'est comme dans la série, ils te proposent un peu de cocaïne et tout ça, c'est comme l'ambiance
Alors c'est marrant parce que ça, tout le monde m'a demandé, oui, ils te proposent, moi ils m'ont proposé de prendre de la coke, évidemment.
Tu as dit oui
et j'ai dit non parce que tu peux pas. Enfin,
c'est le travail.
C'est le travail. Je pense qu'il y en a qui doivent taper dedans, tu vois. Mais moi, je peux pas parce que je suis trop concentré et en plus, en fait, faut que t'es obligé de garder une frontière, une distance avec eux et pas rentrer dans un lien d'amitié avec des gens qui potentiellement ont tué des personnes, ont tué des journalistes, tu vois.
Ouais, ouais.
Et aussi parce que je suis pas tout seul. Souvent, je suis avec mon fixeur. Mmh. Et faut savoir que c'est pas de la coke parisienne là qui te sert. Hein. Là-bas, c'est de la pure. Donc, tu t'envoles instantanément. Pendant 3 jours, tu restes éveillé derrière. Donc,
peut-être que ça peut être un truc de respect. Oui, dites, tu sais, genre quand tu vas en Russie et qu'on te propose un shot, non, si tu le refuses, on te fait la gueule.
Alors,
tu vois, peut-être.
Évidemment. Après, ils savent que je suis en train de bosser. Donc, en général, ils font pas trop chier. Ouais. Tu vois, mais clairement, s'ils me braquaient un flingue sur la tempe en me disant tu vas la goûter, si, tu vas la goûter, bien sûr, tu la goûtes. Tu vois, c'est pas le problème. Mais après, voilà, tu vois, ça, j'en parle un peu dans la vidéo coulisses, mais déjà. L'ambiance est hyper importante. Moi, je suis arrivé à 10h du matin dans une maison de narco où tous les mecs étaient complètement bourrés. S'ils avaient fait la teuf toute la nuit, ils étaient coqués. Ils avaient leurs armes de poing dans les mains chargées et ils les faisaient tournoyer autour de nos têtes et tout. Moi, mon fixeur, il me regardait toutes les 30 secondes et tout. Pour la petite anecdote, mon fixeur avait sa femme enceinte au moment où on tourne. Mmh. On est rentré dans la maison, genre 30 secondes plus tard, et il me dit... clairement, fais le plus vite possible, on se casse très très vite. Ils font n'importe quoi, c'est dangereux, etc.
En fait, toute ta vie est un peu une anecdote. Donc, tu vois, est-ce qu'il y a une anecdote ou une autre pour le game
Il y a une petite anecdote marrante.
Que j'aime. Marrante, alors, attention.
C'est pas non, c'est pas marrant.
C'est là, j'ai rencontré un mec qui m'a braqué, c'était fun.
C'était fun. Non, il y a une anecdote que j'aime beaucoup, c'est un de mes meilleurs souvenirs de tournage. C'est quand je suis allé filmer les bonobos en République démocratique du Congo. Je suis allé dans une réserve où il y a notamment beaucoup de bébés bonobos. Alors, je ne sais pas si les gens ont déjà vu des bébés bonobos. Je vous recommande de taper ça sur Google parce que c'est de loin la créature la plus merveilleuse de cette planète. Et
On pourrait avoir un débat, mais ok.
Ouais, mais fais attention. Vraiment, les yeux des bébés bonobos, c'est...
Regarde-le, celui-là ! Alors, on regarde en direct des photos de bébés bonobos.
Pardon,
effectivement,
pardon.
C'est mignon.
Et en fait, donc, évidemment qu'on ne peut pas ni toucher, ni s'approcher des bébés bonobos, parce qu'il ne faut pas qu'ils s'habituent trop à l'homme avant qu'ils soient réinsérés dans la forêt tropicale, etc. Mais j'ai eu, entre guillemets, un énorme coup de chance, c'est-à-dire que le jour où je faisais mon tournage, la réserve était fermée, donc ce n'était pas possible de la visiter, etc. Donc j'étais tout seul avec les femmes nourrices qui s'occupent des bébés, parce qu'ils ont besoin d'un contact avec un référent, et souvent c'est des mamans. C'est ce qu'on appelle les mamans là-bas, c'est des femmes congolaises qui s'occupent de toute la journée. Et en fait, il y en a un qui s'est échappé
oh.
de l'enclos. J'étais tout seul avec les mamans. Elles m'ont demandé d'aller le chercher.
Oh.
Et c'était incroyable parce qu'en fait, donc je me suis approché de cette petite bébé bonobo et elle m'a sauté dessus. Elle m'a sauté
mais on
sur
l'a,
l'épaule.
Le sujet mignon, il est là.
Et j'ai évidemment tout de suite dégainé mon téléphone portable pour faire une story qui est disponible sur mon compte Instagram.
Charleville avec deux A.
Voilà. Et c'était magique parce que j'ai trimballé le bébé pendant, je sais pas, 3 minutes sur les épaules. Il sautait derrière moi, tu vois. Et à la fin, donc je suis rentré dans l'enclos. Et il faut savoir que les bonobos sont très territoriaux, même quand ils sont tout petits. Et donc, je me suis fait charger par un troupeau de bébés bonobos qui ont commencé à me monter dessus. Et toutes les mamans sont arrivées, évidemment, pour récupérer les bébés. Mais à un moment, je me suis retrouvé avec 5 bébés bonobos sur le corps. En train de m'escalader, d'essayer de me faire des guillis et tout, c'était incroyable.
Trop incroyable,
les yeux qui brillent quand tu racontes ça.
Ah ouais, j'avais plus que quand tu racontes.
La tourista avant le chef de groupe armé, ouais, c'était un moins bon souvenir, effectivement.
Ça, son anecdote mignonne ne concerne aucun humain, quoi. Il n'y a pas d'humain dans son anecdote.
Non, ouais.
Après, j'ai
des très belles anecdotes avec des êtres humains, mais il s'avère que c'est quand même moins fréquent qu'avec les animaux, oui, on ne va pas se mentir.
C'est trop mignon, bébé bonobo, c'est validé.
Je crois qu'il en reste que 20 000 dans le monde. Ils sont tous en République démocratique du Congo, donc il y a vraiment une urgence à les protéger. C'est des créatures extraordinaires. D'ailleurs, ils résolvent leurs conflits en faisant l'amour. C'est assez fascinant.
Je savais.
On a de belles leçons
à apprendre du bonobo.
Du bonobo. Voilà.
Eh bien, les amis, c'est sur cette belle note, plein d'optimisme, que nous allons finir cet épisode, Marie.
Bah oui, c'est fini. Allez nous suivre sur les réseaux sociaux.
Oui, c'est ça. Merci à tous pour tous vos messages. Sur Instagram, ça augmente, ça nous fait plaisir. Si vous nous laissez des petites notes avec un 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est génial parce que ça nous fait grossir. Il y en a de plus en plus. C'est trop bien. Merci, Charles, d'avoir accepté l'invitation.
Mais de rien, merci
on
de m'avoir invité.
On est hyper content de t'avoir eu entre tes 15 voyages dans le bout du monde. Franchement, bon, c'est trop cool qu'on ait pu t'avoir
oui,
pour être parrain de la saison 2. Marie,
oui,
eh bien,
t'es content de me retrouver.
Ouais, je suis trop content.
Les touristes et les touristes sont contents de me retrouver.
Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau studio de tournage? On a changé.
Écoute, il est très confortable.
Il est pas mal.
Il fait un peu chaud.
Je vais ouvrir la fenêtre. Ouais, dis-moi.
Petite demande en fin d'épisode aux touristes et aux touristes qui nous écoutent. Comme on va essayer d'ouvrir un peu le podcast aussi aux gens qui ont des métiers en rapport avec le voyage.
Oui.
Si ils ont des profils comme ça qui s'habitent sur Paris, ils peuvent nous envoyer un petit message.
Par exemple, vous êtes hôtesse de l'air ou steward, par exemple.
Par exemple.
Ah, c'est génial, ça. Quelqu'un avec des anecdotes de voyage en avion.
Donc voilà, n'hésitez pas
à
nous envoyer.
Tous ces métiers-là autour du voyage.
Tourista podcast sur Instagram. Merci.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Merci beaucoup et à dans 2 semaines.
Bisous.
Ciao, ciao.